Luc, on a souvent des sondages qui sortent dans les journaux, dans les pages des affaires là, des journaux, qui nous disent que les Québécois sont terriblement endettés, sauf que chaque fois que je regarde ces sondages-là, je m'aperçois que les hypothèques sont considérées comme des dettes, alors que pour moi, une hypothèque, comme c'est ta maison qui est en garantie, tu peux pas considérer ça comme une dette personnelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est un investissement plutôt qu'une dette. Acheter une auto, ça, c'est une dépense. Acheter une maison, c'est une
c'est un investissement.
Puis j'ai de la misère quand on met les hypothèques à même les dettes. Là, on a un sondage qui sort et là, ils ont éliminé l'hypothèque. Et ils constatent qu'en moyenne, les Québécois doivent 20 000 $.
C'est beaucoup. Hein?
20 000 $ chacun.
Ça, c'est des dettes de consommation, de cartes de crédit, comment on appelle ça, de marge bancaire,
ça veut dire un couple, c'est 40 000. Là.
C'est beaucoup.
Tu sais,
c'est
20 000 $ par habitant.
Ce que je trouve encore plus inquiétant dans le même ordre d'idée, de la même étude, 45 % indiquent que leurs revenus sont à peine suffisants pour faire face au coût de la vie.
Et 40 % disent qu'ils seraient incapables de faire face à une mauvaise surprise.
Oui, c'est quand même quelque chose.
Tu vas chez le dentiste, là, t'as des traitements de canal pour 2000 piastres, paf, t'es pas capable.
C'est ça.
C'est ça que ça veut dire.
Alors là, il y a le phénomène des tanguis aussi qui s'ajoute.
Ça, 18 % donc une famille sur cinq, il y a encore un jeune de plus de 18 ans à la maison.
Oui.
Et dans la 65 % de ces cas-là, donc les deux tiers de ces jeunes-là restent à la maison parce que ça coûte trop cher d'aller vivre en appartement. Je pense surtout que ça perd trop de confort si ça va vivre en appartement.
Mais faut aussi dire une chose, Myriam, je sais pas dans ton cas, mais moi, quand t'es venu l'âge de mes filles pour partir de la maison, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elles restent.
Ah oui?
Ah ben oui.
Explique-moi ça, papa gâteau.
Ben, c'est pas, tu sais, ces enfants-là qui sont rendus à 18, 20, 21 ans, ils ont fait partie du décor de la maison, de l'équilibre, de la place, des bruits ambiants, des odeurs de la place. Enfin, c'était comme déshabiller le foyer.
T'es comme le Marc Messier de Boomerang. Tu l'as-tu vu, cette émission-là?
Non, je l'ai pas vu.
C'est Marc Messier qui fait le père. Puis effectivement, ces deux filles reviennent comme des élastiques tout le temps à la maison, là. Avec leur chum de préférence. Puis lui, ça fait son affaire.
Puis à un moment donné, tu comprends, tu lâches. Okay.
Moi, tu vois, j'essayais de partir le plus vite possible. Je suis partie très, très jeune de chez nous.
Ah, ben ça, c'était vrai pour moi.
Par contre,
aussi.
Mes frères sont restés chez mes parents pendant, je pense, jusqu'à 25 ans.
Ah oui.
Et
toi, c'est parce que tu voulais aller faire le party.
Oui.
Ah non!
Oui,
c'était
oui.
Ta grande époque militante de gauche.
Les deux.
Et aller dans ton militantisme.
Les deux. Je voulais faire le party puis la révolution en même temps.
Ben oui, c'est ça. Puis tu l'as encore en dessous de cœur, celle-là, la révolution, mesdames et messieurs. Vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a deux membres de Québec solidaire dans la région de Québec. Eh bien, Myriam, à sa façon, a quelque chose à voir avec cela.
Mais je dois te dire que ce qui m'inquiète le plus dans l'article, puis j'ai pas les catégories d'âge parce que c'est pas important selon... Ce serait quand même important d'avoir les âges. Mais ils disent que 34 % des répondants disent qu'ils n'ont pas mis d'argent de côté pour leur retraite, ou très peu.
C'est
vrai. Et en fait, là, le plus beau cadeau que mon père m'ait fait, il a payé toutes mes études, OK? Y compris mes années de révolution à Jonquière. Il a payé toutes mes études. Je suis sorti de mes études sans aucune dette. C'est un immense privilège.
Comment as-tu vu la lumière après tes années de révolution? Où est-ce que tu le vis encore secrètement?
Ah, je cherche encore la lumière. Et il m'a dit, en échange, mets juste 1000 $ de côté. Chaque année dans un REER, pour ta retraite. Puis j'ai dit, bon, regarde, il a fait son effort, il m'a fait le mien. Je l'ai fait. Et
ben,
c'est le conseil le plus judicieux qu'il m'ait jamais donné.
Ouais.
Parce que, effectivement, si je n'avais pas mis de côté avant d'avoir des enfants, là, pense pas que j'aurais pu le faire pendant que j'avais des enfants.
Ah ben oui, c'est autre chose, ça.
Tu sais, ça aussi, là, on peut bien faire...
Mais il reste, Myriam, que... C'est dur de mettre dans la tête de quelqu'un de 20 ans qu'il faut qu'il pense à sa retraite. Parce que quand t'as 20 ans, tu penses que t'auras jamais 40 ans. C'est bizarre, là, mais on est comme ça.
À 20 ans, tu penses que tu vas mourir à 30.
Oui, il y a des fois que c'est
souvent,
comme ça.
Souvent, il y a cette espèce d'idée que 30 ans, c'est la fin de la vie, alors que quand tu passes au travers, tu t'aperçois que c'est même pas le début, là.
Puis là, t'as 20 ans, tu dis, faut que je me préoccupe d'une éventuelle retraite qui arriverait passé l'âge de 60 ans. C'est dur à convaincre quand t'as le choix entre ça puis aller faire un beau voyage à Paris.
Ouais. Mais, tu vois, moi, je l'ai vu plus comme un remboursement à mon père.
Oui, il a bien fait.
J'ai vu plus comme ça. Mais c'est effectivement inquiétant parce que si tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté quand t'es jeune puis que t'as pas d'autres responsabilités que toi-même, c'est illusoire de penser que tu vas en mettre de côté quand tu auras deux enfants, puis qu'il y en a un qui va vouloir faire du ballet, puis l'autre du hockey, puis que tu vas courir t'étirer le cou, puis tu vas avoir besoin de deux autos, puis...
Je te dis que c'est pas long qu'on on est au bout de la corde. Hein?
Ouais. Pour ça que moi, je pense que la solution, là, on reproche aux gens d'être endettés, puis de pas arriver. Peut-être qu'on devrait leur donner un break dans les taxes et les impôts.
Et voilà!
Peut-être
si
que la solution,
gens...
ce serait ça.
Continuez de travailler fort, vous allez en avoir plus dans vos poches. Nous, le gouvernement, on va arrêter d'aller piger dans vos poches pour faire toutes sortes de niaiseries, comme les lunchs de vos enfants, puis le reste. Et puis, vous allez voir, les choses vont aller mieux. Les gens sont plus intelligents, les gens savent se débrouiller. C'est pas vrai que l'État doit être le gardien de tout. Là.
Si on leur disait qu'au-delà de 40 heures par semaine, le temps supplémentaire qu'ils font ne sera pas taxé, ne sera pas imposé, ça leur donnerait peut-être une chance de travailler 4 à 5 heures de plus par semaine?
Ce serait une excellente
idée. Pas, moi,
c'est... Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, je suis contre l'interventionnisme d'État dans l'économie, sauf avec un outil qui est la fiscalité. Servez-vous de la fiscalité, c'est un bel exemple, celui que vient de donner Myriam. Dites, fiscalement, après la 40e heure, vous êtes plus taxé sur le revenu.
Puis si on arrêtait de punir les jeunes qui travaillent, tu sais, un jeune qui travaille puis qui est sur les prêts-bourses, là,
il pour, serait chaque, son prêt-bourse.
Pour chaque dollar qu'il gagne, il se fait couper 50 cents sur son prêt, sur sa bourse. Pas sur son prêt, sur sa bourse. Son prêt, on le coupe pas.
C'est pas un bien gros incitatif. Hein?
Ben, ça veut dire que le jeune qui dit « Oh, moi, ça me tente pas de travailler en fin de semaine », dites-vous qu'il travaille pour 6 piastres de l'heure, pas pour les 12 que vous y payez.
En effet.
C'est ça la clé, là. Alors, avant de chialer sur les Québécois qui se planifient mal, puis qui ont des dettes, oui, etc.
Le gouvernement commence à se regarder, puis toute cette machine étatique, on a-tu besoin d'avoir tout ce monde-là qui pose des crayons partout? On a-tu besoin de ça? On a bien plus besoin d'argent dans les poches de nos citoyens. Vous allez voir qu'ils vont devenir entrepreneurs. Vous allez voir qu'ils vont être drôlement plus motivés dans la vie qu'être toujours assis là et dire « Ah, que ça me donne, le gouvernement va venir le prendre dans l'autre main. »
Martin, qui est un défenseur des jeunes et qui trouve qu'effectivement notre fiscalité est un peu tout croche, il dit « Savez-vous que les jeunes payent 11 % de RRQ actuellement pour payer la retraite de ceux qui ont cotisé à 3 %? »
C'est ça l'affaire.
C'est aussi ça la réalité, là.
Eh oui. Et la dette qu'on leur laisse, là, c'est quand même pas rien, là. C'est le plus gros poste budgétaire après la santé. Je me trompe peut-être. Je pense santé, éducation, dette.
Ouais.
L'intérêt sur la dette. Les gens pensent que la dette, c'est un concept abstrait, là.
Non.
Ils nous disent que c'est 220 milliards. Bon, OK, 220 milliards. Les gens sont pas capables de... D'être quasiment.
Je regarde mes enfants, là, et ils vont avoir une moins belle vie que moi.
Ah, ça s'annonce.
Et je suis la première génération qui laisse à ses enfants une moins belle vie que ce qu'elle a vécu.
Oui, je comprends. Mais en même temps, les choses changent, et puis ça dépend ce qu'on entend par plus belle vie.
Ben, c'est-à-dire financièrement, là. Je regarde pas la qualité, le bonheur, etc. Là, je regarde juste sur le plan financier. Ils vont manger plus de misère que j'en ai mangé.
Ah, je te suis, là, mais j'avais jamais fait cette analyse.
Petite pause, puis peut-être qu'on va rire dans quelques instants.